Chapitre 3. Une fois dehors, Agatha s'écria rageusement. Quel ignoble individu!
Allons, calme-toi, dit Charles. Nous voulons visiter le cottage, non? Tu as failli tout gâcher.
Désolée, dit Agatha d'une voix soudain radoucie. Charles la regarda avec des yeux soupçonneux. Agatha venait de se rappeler que Sir David et Rise devait lui téléphoner à son agence et elle ne voulait pas avoir Charles dans les pattes.
Si nous continuions chacun de notre côté, suggéra-t-elle. Je ne peux pas interroger Victoria Bannister parce qu'elle ne fera que m'injurier. Mais toi, tu peux et nous pourrions nous retrouver plus tard.
Comme tu veux, dit Charles avec réticence. Mais toi, qu'est-ce que tu comptes faire?
Il faut que je fasse un saut à l'agence pour voir comment les autres se débrouillent. J'ai une entreprise à diriger, Charles, et personne ne me paie pour les efforts que nous déployons.
Mais nous sommes venus dans ta voiture, tu as oublié? Comment veux-tu que je retourne à Carsley?
Agatha prit son portable dans son sac.
« Tony, dit-elle, pouvez-vous être un amour et venir chercher Charles pour le ramener à Carsley? Parfait, rendez-vous sur le parking de la place. »
Bon, pourquoi Agatha ne veut-elle pas de moi dans son bureau? Se demanda Charles. « Nous n'avons rien avalé depuis ce matin. Si nous allions quelque part pour un déjeuner tardif, » suggéra-t-il en voyant Tony se hâter vers eux.
« Je n'ai pas faim, » mentit Agatha. « Si tu allais plutôt manger un morceau avec Tony. »«
J'ai déjà déjeuné, » objecta Tony.
« Vous n'aurez qu'à me regarder manger, » dit Charles.
Il se mettait en route quand Tony se retourna et lança.
« Que je suis étourdie. Sir David et Rise vous attend à l'agence, Agatha. »
Charles eut un sourire retors.
« Je n'ai pas vu ce vieux David depuis des lustres, » dit-il. « Il faut que je profite de ce qu'il est là pour lui dire bonjour. »
Et au grand dépit d'Agatha, il prit la direction de l'agence sans même l'attendre. Tony et elle coururent derrière lui. Comme pour ajouter encore à l'irritation d'Agatha, quand elle entra dans son bureau, ce fut pour y trouver David et Rise, assis à sa table de travail et plongé dans le contenu de son ordinateur.
« Charles Fraisse ! » s'écria-t-il en levant les yeux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»
Tandis que Charles expliquait qu'il était un ami intime d'Agatha et que la conversation tournait aux échanges de nouvelles sur des gens qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, elle se pencha pour éteindre son ordinateur. Tout en parlant, David lui céda la place et rejoignit Charles de l'autre côté du bureau.
« Si nous sortions prendre un verre ?» proposa celui-ci.
« Excellente idée !»
Les deux hommes se dirigèrent vers la porte.
« Attendez !»
cria Agatha. Tous deux se retournèrent. Charles lui sourit avec douceur, cependant que David haussait les sourcils.
« Voyons !» dit Agatha en désespoir de cause. « Vous étiez censé découvrir quelque chose pour moi, David !»«
Oh ça ! Tout ce que j'ai appris, c'est comment Clive Tremaine a été tué !» dit David.
« On ne l'a pas étranglé. Il a reçu un grand coup sur la tête avec le classique « instrument contondant ». Ensuite, on lui a attaché un sac de pierre autour du cou et on l'a jeté dans le canal. C'est ce que les plongeurs ont constaté quand ils l'ont remonté à la surface.
« Mais comment a-t-on su qu'il y était au fond du canal? Et quand l'y a-t-on transporté ?»«
Eh bien, Tremaine n'a pas encore été autopsié, mais quelques étudiants se sont décidés à venir témoigner. Ils ont dit qu'il était environ 3 heures du matin et qu'il sortait d'une soirée entre copains quand ils ont entendu un grand plouf venant du canal. Une des filles a déclaré qu'elle avait distingué une tête d'homme à la surface, puis qu'elle s'était enfoncée.
« Pourquoi ne se sont-ils pas présentés plus tôt ?» questionna Agatha.
« La police pense qu'ils avaient pris de la drogue et qu'il préférait ne pas avoir affaire à elle. Mais cette fille, une nommée Hayley Martin, a fini par avoir mauvaise conscience. Elle a appelé le commissariat pour raconter ce qu'ils avaient vu.
« Elle a repéré quelqu'un dans les parages ?» demanda Tony.
« Une silhouette sombre qui filait par le chemin de halage, mais elle ne peut même pas dire si c'était un homme ou une femme. Ses amis lui ont conseillé de laisser tomber. Ils lui ont dit que c'était sûrement quelqu'un qui jetait des ordures en douce. Je suis allée la trouver, cette Hayley Martin. » Et je lui ai promis que rien de ce qu'elle me dirait ne serait rapporté à la police. Elle m'a expliqué que les autres étaient sous et qu'ils avaient fumé de l'herbe, mais que pour sa part, elle ne fumait jamais et qu'elle n'avait pas bu grand-chose. J'ai compris pourquoi la police prenait son histoire au sérieux. C'est une très jolie fille, très honnête. Pour le reste, il y avait le bureau de Tremaine. Son ordinateur a été emporté et comme vous l'avez vu, Agatha, tous ses papiers et sa correspondance étaient éparpillés sur le sol.
« Est-ce que la police vous a dit si Jill Davant gardait des enregistrements de ses séances ?»«
De toute évidence, non, elle n'en faisait pas. »«
C'est tout ce que je peux vous apprendre. »«
Venez, Charles, parlez m'a donné soif. Je vous rappelle bientôt, Agatha. »
Quand ils furent attablés au bar du Georges devant un verre, David demanda. «
Vous avez une liaison avec cette Mrs. Raisin ?»«
Nous sommes des amis très proches,
répondit Charles.
Oui, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir plus que ça. Pourquoi ? Parce que les hommes comme vous et moi ont un vaste choix de femmes beaucoup plus jeunes,
dit David.
Même s'il est vrai qu'elle est sexy, cette Agatha, ça ne me déplairait pas d'avoir une petite aventure avec elle.
Charles se leva et sa voix de ténor résonna dans le bar.
Si jamais vous avez ce culot !
Quoi ?
Je vous tuerai de mes propres mains,
dit Charles, et il sortit de l'hôtel à grandes enjambées. David et Rice étaient furieux, car il avait l'habitude d'être traité avec respect. Du coup, il décida que non seulement il mettrait Agatha Raisin dans son lit, mais qu'il ferait en sorte que Frey s'en entende parler. Il finit son verre et rentra chez lui dans le quartier de Summertown. Il habitait une des belles maisons victoriennes qu'on avait construites au XIXe siècle pour les maîtres de conférences de l'université d'Oxford, quand une réforme de leur statut avait permis qu'ils vivent à l'extérieur du campus et se marient. C'était le quartier le plus cher de la ville, et ils possédaient aussi un appartement dans l'Inner Temple de Londres, un des ensembles d'hôtels particuliers destinés aux grands hommes de loi. Il gara sa voiture dans la petite rue sous un city's et descendit savourant le paisible silence de cette fin d'après-midi. Il entra, rebrancha l'alarme, passa dans la cuisine et se servit un verre de chardonnay qu'il emporta dans son bureau. Puis, il rédigea une facture pour son intervention de la veille au commissariat qu'il comptait envoyer à Agatha. Cela fait, il ouvrit la fenêtre toute grande, car le début de soirée était doux, et écouta chanter les merles et au loin ronronner la circulation sur la route de Banbury. Son téléphone sonna. Une voix rogue et asexuée lui dit
« Si vous voulez savoir qui a commis ces meurtres, retrouvez-moi sur le pont du canal de Hythe dans une demi-heure !»
Puis le correspondant raccrocha.
« Bon, soit c'est un mauvais plaisant, soit c'est le meurtrier, » songea David.
Il appela la police et raconta qu'on lui avait fixé rendez-vous. Le sergent qui lui répondit promit d'envoyer des agents civils pour surveiller la rencontre. En remontant en voiture et en démarrant, l'avocat se sentit envahi par la fièvre de la chasse. Il se gara sur le parking de Worcester Road, puis marcha jusqu'au pont. Il ne distingua pas les policiers, mais les environs grouillaient de jeunes gens qui allaient et venaient. La demi-heure passa, puis trois quarts d'heure, et il comprit que l'appel était sûrement un canular. Il téléphona de nouveau à la police et dit qu'il avait été victime d'une farce idiote et rentrait chez lui. En garant sa voiture, il remarqua avec humeur que, dans son excitation, il avait laissé la fenêtre de son bureau ouverte. Il entra, rebrancha l'alarme une fois de plus, et décida de se faire une omelette avant de monter dans sa chambre. Après avoir dîné, il se dévêtit, prit une douche et se mit au lit de bonne heure. Mais il se sentait agité, et se tourna et se retourna entre ses draps, jusqu'au moment où il se résolut à prendre pour dormir deux des comprimés que son médecin lui avait prescrits, ces saletés dont il tentait avec difficulté de se passer. Avec un soupir de soulagement, il reposa sa tête sur l'oreiller et bientôt, ses yeux se fermèrent et il s'endormit profondément. Sir David et Rice dormaient nus. Une main gantée surgit de l'obscurité et souleva doucement les draps et la couverture, puis pressa des feuilles d'une plante herbacée contre sa poitrine. Après quoi, la silhouette s'éloigna silencieusement. Quelques minutes plus tard, Sir David se réveilla en sursaut, car il était pris de violentes palpitations suivies de convulsions. Son dos s'arqua. Le pauvre homme se tordit sur lui-même, en proie à d'affreuses souffrances, avant de tomber dans le coma. La silhouette sombre s'approcha de nouveau, prit les feuilles éparses sur sa peau, et enfin disparut. Le lendemain matin, la femme de ménage de Sir David, Mrs. Denby, entra dans la maison, rebrancha l'alarme et passa dans la cuisine, espérant avoir le temps de prendre une tasse de thé avant que l'avocat, qui était un lève-tôt, ne descende du premier étage. Elle put non seulement boire son thé, mais aussi fumer une cigarette. Puis elle commença le ménage du rez-de-chaussée. En milieu de matinée, comme son employeur ne s'était pas encore montré, elle fut prise d'une certaine inquiétude. Sa voiture était pourtant garée devant la maison. Hissant le vieil aspirateur de marche en marche et maudissant son patron pour la pingrerie qui le retenait d'acheter un modèle plus moderne et plus léger, elle le laissa sur le palier et, après avoir frappé sans obtenir de réponse, ouvrit la porte de la chambre. Un rayon de soleil se glissait entre les lourds rideaux tirés et tombait sur le rictus grimaçant d'une douloureuse agonie qui tordait le visage de l'avocat. Mrs. Danby recula lentement. Elle savait qu'elle aurait dû tâter son pouls, mais était trop effrayée pour s'approcher si peu que ce soit de cet horrible masque mortuaire. De retour sur le palier, elle claqua la porte derrière elle, chercha son téléphone portable dans la poche de son vieux pantalon et appela la police avant de redescendre, les jambes tremblantes, pour débrancher l'alarme et entrebâiller la porte. Deux voitures arrivèrent, d'où descendirent trois policiers, bientôt suivis de celles du médecin légiste et de la camionnette de l'équipe de la scientifique, dont le travail consista à passer la maison au peigne fin pendant que Mrs. Danby restait assise sur une chaise de cuisine qu'elle avait emportée dans le jardin, frissonnante, malgré la tiédeur de cette matinée de printemps. Dans un coin de son agence, Agatha laissait un petit téléviseur allumé qui, le volume réglé très bas, diffusait les informations de la BBC en continu. Elle disait à Phil « Prenez votre appareil photo, nous allons réessayer de filer cette femme » quand celui-ci la coupa.
« Écoutez donc !»
Il alla augmenter le son du petit appareil et le visage de Sir David Herries, en robe d'avocat et perruque, apparut sur l'écran. « Le corps a été retrouvé dans sa maison d'Oxford par sa femme de ménage », commentait le présentateur. « Mais la police ne pense pas à un acte criminel. Les rapports préliminaires suggèrent que l'éminent pénaliste a succombé à un infarctus massif. »
« Je n'y crois pas !» dit aussitôt Agatha. « Où est Patrick ?»« Au supermarché, il interroge le personnel pour trouver qui vole des appareils électroménagers. »
Agatha appela Mulligan sur son portable et lui annonça la mort suspecte de David Herries. « Vous avez des contacts avec la police de la vallée de la Tamise ?» lui demanda-t-elle.
« J'en ai un. Je vais voir s'il peut nous apprendre quelque chose. »
Agatha raccrocha et se tourna vers Simon. « Trouvez-moi le nom et l'adresse de cette femme de ménage et allez lui parler, c'est forcément un meurtre !» On était déjà en fin de journée quand Simon parvint à remonter jusqu'à Mrs. Danby, qui habitait une tour de logements sociaux du quartier périphérique de Blackbird Lace. La personne qui vint lui ouvrir était une jeune femme aux cheveux d'une improbable couleur aubergine, avec deux piercings dans le nez et dans les bras, un bébé qui hurlait.
« Mrs. Danby ?» demanda Simon.
« Non, elle ne parle pas aux journalistes. Foutez-lui la paix !»«
Je ne suis pas journaliste, je suis enquêteur. »«
Ah, alors c'est différent.
Hey, »« Eh, Beryl !»
cria-t-elle.
« Un autre flic !»
Simon savait que la loi l'obligeait à révéler qu'il était détective privé, mais décida de ne le faire qu'en partant. La jeune femme le fit entrer dans un salon salle à manger crasseux, preuve s'il en était besoin que certaines employées de maison n'ont que faire du ménage de leur propre domicile quand elles ont fait celui des autres. Des boîtes à pizza vides jonchaient le sol, des canettes de bière vides aussi débordaient d'une poubelle en plastique posée dans un coin de la pièce et des journaux et des magazines s'empilaient un peu partout. La jeune femme au bébé lança
« Je rentre, maman! Je dois faire à manger à Franck! Je repasserai demain matin !»
Après son départ, Simon dit à la femme plus âgée qui venait d'apparaître
« J'ai seulement quelques questions à vous poser, Mrs. Danby.
Vous pouvez me donner une minute pour me changer ?»
demanda Mrs. Danby. Elle leva un bras puissant et ridé et renifla son aisselle.
« Je sens je ne sais quoi d'affreux. »«
Prenez votre temps !» dit Simon.
Quand elle eut disparu dans le fond de l'appartement, il ouvrit toute grande la fenêtre, car ce n'était pas seulement les aisselles de Mrs. Danby qui empestaient. Une fois dans sa chambre, Mrs. Danby ôta son sweatshirt et son pantalon qui étaient trop longs pour elle et dont elle avait retroussé le bas. Elle ouvrit la porte de la salle de bain et les jeta sur une pile de vêtements sales dans le panier à linge. Une grande feuille d'un vert sombre qui était restée collée au bas du pantalon tomba à ses pieds. Machinalement, elle la ramassa et la froissa entre ses doigts tout en se demandant si elle avait quelque chose de propre à se mettre. Soudain, elle porta une main à son cœur qui battait à tout rompre sous l'effet d'un violent choc anaphylactique.
« Au secours !»
cria-t-elle et elle s'effondra sur le sol. Simon arriva en courant, regarda son visage déformé par la douleur et se demanda pourquoi une mégère comme Mrs. Danby portait un string écarlate. Il prit son téléphone pour appeler une ambulance. Ne sachant comment secourir la malade, il fila dans la cuisine et en désespoir de cause, remplit un verre d'eau au robinet, y jeta une grosse pincée de sel, mélangea le tout et le lui apporta.
« Buvez !»
lui dit-il d'une voix forte. Il parvint à lui faire avaler une grande gorgée d'eau salée, mais ensuite elle vomit sur le sol.
« Vous avez mangé ou bu quelque chose de mauvais ?»
lui demanda-t-il.
« La feuille !»
articula-t-elle faiblement.
« C'est cette feuille !»
Simon entendit une sirène approcher. Il prit dans sa poche un sachet en plastique et enfila une paire de gants en latex, puis saisit la feuille froissée et la glissa soigneusement dans le sac.
« Quel est le numéro de téléphone de votre fille ?»«
Sur le mur de la cuisine, au-dessus du téléphone mural. Josie Malheur !»
Les ambulanciers entrèrent, suivis de près par trois policiers. Deux hommes et une femme. Celle-ci était le sergent Ruby Carson, une belle blonde aux yeux d'un bleu profond. Victime d'un coup de foudre, Simon oublia Tony séance tenante. Rapidement, il expliqua à Ruby et aux ambulanciers ce qui s'était passé. Le choc allergique, la feuille. La jeune femme lui proposa de prendre sa déposition dans sa voiture en attendant l'arrivée de la police scientifique. Quand ils furent assis dans le véhicule et que d'un geste déférent, il lui remit le sachet en plastique contenant la feuille incriminée, elle lui dit
« Je téléphonerai à l'hôpital dans un petit moment pour vérifier si elle est toujours en vie. Quant à cette feuille, je l'envoie au labo. »
Elle prit note de la déposition de Simon, l'imprima sur son imprimante portable et la lui fit signer.
On dirait que tout a commencé dans ce patelin où habite votre patronne, commenta-t-elle ensuite. Mais quel est le lien entre tout ça? David Erise était en congé et il avait envie de jouer un peu au détective, expliqua Simon. Il est mort. Sa femme de ménage a trouvé cette feuille et elle a fait cette crise épouvantable. Je suis sûre que Jill Davant, la soi-disant psy, a découvert quelque chose sur quelqu'un. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ce quelqu'un l'a su, a paniqué et l'a assassiné.
Bon, j'appelle l'hôpital maintenant, dit Ruby. Simon attendit qu'elle ait fini de téléphoner, étudiante à la dérobée son ravissant profil. Quel âge pouvait-elle avoir?
Peut-être pas mal d'années de plus que lui, mais qu'importait?
Il se demanda s'il aurait l'audace de l'inviter un de ses soirs. Quand elle eut achevé sa communication, et lui eut annoncé que Mrs. Danby avait survécu, il prit le parti de se jeter à l'eau.
« Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre ?» lui demanda-t-il.
Ruby lui lança un regard amusé.
« Vous me draguez ?»«
J'essaie, » reconnut Simon. On tapota à la fenêtre de la voiture.
« Je suis l'inspecteur Briggs, Mr. Black, » dit un homme en se penchant du côté du siège du passager. « Vous avez fait une déposition ?»«
Oui. »
Alors allez directement au commissariat de Merceuster et racontez ce qui s'est passé, tout de suite.
Quand il se fut éloigné, Simon ronchonna.
Ils vont probablement me garder une bonne partie de la nuit.
Vous avez une carte ?
Ruby lui sourit et lui en tendit une.
Merci, dit Simon. Je vous appelle très vite.
Elle ne porte ni bague de fiançailles ni alliance, songea-t-il avec allégresse en prenant la route de Mercester. Ignorante de ce qui s'était produit, Agatha était assise dans le petit salon douillet de sa femme de ménage et lui demandait
« Pourquoi avez-vous consulté Jill Davant ? Pour moi, vous êtes la dernière personne qui ait besoin d'une thérapeute. »
« Eh bien, je l'ai rencontrée à la boutique du village, » répondit Doris Simpson.
Son chat, Scrabble, grimpa dans son plantureau-giron et s'y recroquevilla pour dormir.
« J'avais des douleurs dans les épaules, vous savez. Elle m'a dit que c'était de la crispation musculaire. » causée par la tension nerveuse et qu'elle pouvait la faire passer. Le docteur ne trouve aucune explication et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Elle m'a massé les épaules en me disant qu'elle faisait partir toutes les tensions. Mais ensuite, non seulement elle m'a fait casquer 60 livres, mais encore 20 de plus pour le flacon d'huile de massage.
Si vous êtes tendue, ça veut dire que vous êtes inquiète, dit Agatha.
Allons, racontez-moi ce qui vous tracasse.
J'ai affreusement honte, figurez-vous. Avec mon mari, on a décidé d'acheter cette maison, notre ancien logement social. C'est au-dessus de nos moyens. J'ai beaucoup de traites en retard et la banque me menace d'une saisie.
Agatha réfléchit rapidement. Dans les Cotswolds, les anciens logements sociaux avaient pris beaucoup de valeur.
À qui comptiez-vous la léguer si vous aviez réussi à la payer?
Je n'ai même pas fait de testament, Agatha. Je n'ai pas eu d'enfant et je n'ai pas de parents proches.
Écoutez, voici ce que nous allons faire, dit Agatha avec résolution. C'est moi qui vais l'acheter, mais vous en aurez l'usufruit jusqu'à la fin de vos jours, en viager. J'ajouterai un codicille à mon testament pour le stipuler. Dès demain, nous irons chez le notaire et à la banque.
Mais vous faites un métier dangereux. Si nous vous survivons, mon mari et moi, vous n'aurez rien gagné.
Agatha n'y avait pas pensé. D'un autre côté, il y avait des années que Doris s'occupait comme personne de son cottage et se chargeait de ses deux chats quand elle s'éloignait de Carsley. Elle haussa les épaules.
« Bah, faisons-le quand même, » dit-elle. « Marché conclu ?»«
Oh, Agatha, vous êtes une sainte. Puisse le bon Dieu vous faire vivre jusqu'à 100 ans.
Mais dans l'obscurité nocturne des Cotswolds, quelqu'un projetait déjà d'envoyer Agatha Raisin ad patres à un âge beaucoup moins avancé.